Le vrai true crime avec les vrais dossiers. Bienvenue sur Mémoire d'archives.
L'affaire Blanche Garneau, chapitre 14. La presse veut savoir. Eh oui, comme c'est depuis toujours, en tout cas depuis que la presse existe, je pense que les journalistes, hein, c'est ce qui les décrit le mieux, c'est la curiosité. Mais est-ce que c'est de la curiosité saine? Pas sûr, pas toujours en tout cas. Mais j'ai trouvé ce titre-là parce que c'est une période là entre la piste qu'on a vue au dernier épisode, la nouvelle piste qui ciblait Binette et Palmer, donc deux nouveaux suspects, mais qu'on n'avait pas encore appréhendé. Et là, la rumeur commençait à courir qu'il y avait une nouvelle piste, mais on n'avait rien, on n'avait pas de détails, mais les journaux, évidemment, hein, curiosité oblige, voulaient tout savoir. Alors, ce chapitre-là va servir un peu à ça et à démontrer un peu, encore une fois, le comportement des médias de l'époque. Donc, si je prends comme exemple, en date du 28 décembre 1920, le journal de la Patrie, qui était imprimé à Montréal, promettait rien de moins une enquête secrète. Mais c'est un peu, je pense, le cas aussi, là, comme on a parlé au dernier épisode, que Dieudonné Lorrain, finalement, la police provinciale menait sa propre enquête de son côté. On a vu, ça a été le même comportement avec la piste qui concernait Henri Duval. Donc, ils ne partageaient pas leurs informations, mais vraiment pas du tout. Et le journal La Patrie promettait bientôt une arrestation du véritable meurtrier. Oui, rien de moins. Et je le dis entre guillemets, véritable meurtrier, c'est comme ça qu'on le disait. Parce que là, on n'avait pas encore son nom et on était sûr que c'était lui. Là, le procès n'avait pas été fait. Donc, ce genre d'utilisation de mots, je pense que ça n'aidait pas non plus à mêler les gens à l'époque. Là, parce que si on dit le véritable meurtrier, mais il n'était même pas encore accusé, alors faut faire attention. Et on apprend aussi que c'est sous le couvert de l'anonymat qu'un haut gradé du milieu policier, hein, rien de moins, mais on n'ose pas le nommer évidemment, aurait confié aux journalistes de La Patrie, et j'ouvre ici les guillemets, « C'est à tort que le public croit que la police est inactive. Hein, » Évidemment, on se sentait visé, donc on voulait montrer qu'on faisait quelque chose, mais c'était peut-être le cas aussi. Et je poursuis. Nous avons un homme actuellement à Montréal. Nous avons deux agents secrets qui continuent l'enquête que nous avons commencée le lendemain de la lugubre découverte du parc Victoria. En réponse à une question, cet informateur mystérieux a aussi ajouté qu'il y a un suspect qui venait tout juste d'être interrogé, ce qui permettait l'ouverture évidemment d'une nouvelle piste. Oui, rien de moins. Mais là, est-ce que ça voulait dire que, par exemple, Binette venait d'être arrêté, c'est ce qu'on va voir bientôt. En plus de pousser, il a même poussé le reporter à écrire ceci, j'ouvre encore une fois les guillemets, les substituts du procureur général, M. Aimé Marchand et M. Lucien Cannon, on aurait dû voir pas le titre de monsieur, mais maître, ont eu hier matin une entrevue avec les détectives secrets qui s'occupent de cette affaire et que c'est probablement eux qui ont interrogé le témoin qui aurait fait des révélations nouvelles. Et je ferme les guillemets. Le 3 janvier 1921, encore une fois, La Patrie a publié quelques mots à propos d'une rumeur qui voulait qu'une arrestation est à la veille, et là je cite, « Une arrestation est à la veille d'être faite, et la rumeur a même couru en ville hier soir que trois individus avaient été arrêtés à Montréal et en étaient en route pour Québec. » Est-ce que c'était vrai? Est-ce qu'on manquait de précision? Mais disons que règle générale, c'était vrai qu'on s'en allait vers une arrestation, c'est-à-dire celle de Binette en premier. Et bon, ça veut dire qu'il y avait de l'information qui fuitait dans les journaux. Pourquoi ça fuitait dans les médias? Bien, je sais pas. Moi, j'aimais l'hypothèse peut-être que, tu sais, je veux dire, ça transpirait dans les journaux. mais de façon assez tôt dans l'enquête. L'arrestation t'a même pas faite encore. Donc, pourquoi? Est-ce que, c'est une pensée que j'ai, mais c'est une question surtout, est-ce que la police provinciale n'était pas fière et voulait montrer, était pressée de démontrer son efficacité, qu'elle était bonne comparativement à la police de Québec? C'était, je pense, il y avait sûrement certaines compétitions, au moins dans cette affaire-là, à l'époque, entre la police de Québec et la police provinciale. On peut en tout cas fortement le soupçonner, je pense. Le 7 janvier, cette fois-ci, c'est le journal L'Événement, donc plus dans la région de Québec, qui annonçait l'arrestation du complice du meurtrier. Paf! Et voilà! Donc, c'était confirmé, si on se fie aux journaux, évidemment. Donc, à partir du 7 janvier, l'arrestation serait confirmée. Mais on n'avait pas le nom, encore. Mais on promettait, de l'autre côté, que on promettait aussi que celle de l'assassin serait faite, donc l'arrestation serait faite dans les prochaines 24 heures. Donc, ça veut dire qu'on savait déjà ou on préjugeait que la première personne arrêtée n'était pas le meurtrier. Donc, on jugeait déjà la cause alors que le procès n'était même pas ouvert. C'était un peu spécial. On aurait dû utiliser les mots « suspect » pour les deux personnes. Ça aurait été plus objectif à ce moment-là. Le 19 janvier 1921, on a souligné dans le même journal, c'est-à-dire L'Événement, que le premier ministre de la province de Québec, qui occupe en même temps les fonctions de procureur général, et oui, mes amis, c'était comme ça à l'époque, jusqu'à l'époque, je crois, de Maurice Duplessis, donc celui qui était premier ministre, était également procureur général. Donc, ça veut dire qu'il était administrateur de la justice aussi. Et à cette époque-là, en 1921, celui-ci, il a annoncé à la Chambre des députés de l'Assemblée législative que les meurtriers de Blanche Garneau, la jeune fille qui a été assassinée au parc Victoria, des fois on sentait besoin de le préciser parce que c'est pas tout le monde qui adorait les faits divers. Donc on annonçait, le premier ministre annonçait que les deux meurtriers étaient connus, qu'ils étaient deux, et que l'un des bandits est loin, mais que la police est sur ses traces, et qu'avant qu'il ne s'écoule des semaines, les assassins seront dans la prison de Québec. Ce sont ses paroles, je ferme les guillemets. Donc, il était très confiant lui aussi, mais je pense que ça cédait un peu à la pression. On avait hâte vraiment de pouvoir résoudre ça pour... Pour deux raisons principales. D'abord, pour faire taire les rumeurs, parce que les rumeurs, les complotistes vont dire « Ah oui, on veut faire taire les rumeurs parce qu'on veut cacher des choses. » Mais je pense qu'on veut faire taire les rumeurs surtout parce que tout le monde dit n'importe quoi et que c'est fatigant à la longue, c'est vraiment épuisant. Et aussi, on avait hâte de résoudre tout simplement le meurtre. Là. C'est la plupart des meurtres à cette époque-là. Se résolvait quand même assez rapidement parce que les liens, il y avait des liens entre la victime et le tueur, donc comme une querelle de ménage par exemple, on n'avait pas besoin de chercher pendant des mois à savoir c'est qui. Donc pour la plupart des crimes, ça se résolvait assez rapidement. Et voilà, mais dans ce cas-ci, je pense que la pression était là. Donc, c'est ce qu'on raconte en tout cas après les paroles du premier ministre Taschereau. Il y aurait eu des applaudissements, rien de moins, dans l'Assemblée nationale, pardon. Et selon la version qui a été rapportée par l'Action catholique, un autre journal de Québec, voici comment l'échange se serait déroulé entre Taschereau et le chef de l'opposition, qui à l'époque était Arthur Sauvé. Je voudrais savoir si les habiles limiers du gouvernement sont encore au travail et s'ils continuent leur recherche à ce sujet, a demandé Sauvé. Je voudrais qu'on m'explique comment on n'a pas encore pu obtenir de meilleurs résultats. Donc, voyez-vous, c'était l'inquiétude de l'époque. Donc, j'invente rien. Et je vais vous lire la réponse de Taschereau, la voici. Le cas de Blanche Garneau, a répondu Taschereau, n'est pas absolument nouveau et il est arrivé bien des fois que les coupables n'ont pas été découverts en très peu de temps. Il y a des circonstances spéciales qui ont entouré ce meurtre et l'ont compliqué. Ainsi, le cadavre de la victime n'a été découvert que 8 jours après le meurtre et ce délai a empêché de faire des constatations qui aurait été très utile pour la recherche des coupables. Cependant, je puis assurer le chef de l'opposition que du moment que le meurtre a été connu, nous avons mis nos meilleurs limiers sur la piste des coupables et que nous avons poursuivi nos recherches jusqu'à aujourd'hui. Nous ne sommes pas les seuls dans cette province où un meurtre n'a pas été découvert immédiatement et nous avons l'exemple de la province voisine où après plus d'un an, les meurtriers de Small n'ont pas été arrêtés et à New York, qui possède peut-être la meilleure police du monde, on n'a pas encore retracé les auteurs de l'explosion de Wall Street. Et voilà. Je vous laisse en juger vous-même de la réponse du premier ministre Taschereau. J'ai juste le goût de souligner qu'il a dit que dès qu'on a découvert le corps, on a tout fait. Hein? Mais oubliez pas comment que ça a pris de temps avant que les détectives aillent sur les lieux. Demandez-vous aussi si la scène de crime a été bien protégée. Juste deux questions, je pense déjà c'est assez pour avoir une idée. Et on raconte même que Arthur Sauvé aurait senti une certaine frustration parce qu'encore une fois, Taschereau a été applaudi dans sa réponse. Alors, voilà. Et c'est pourquoi la politique ne devrait pas se mêler des enquêtes policières. Yeah. Ils donnent leurs commentaires, mais ils savent pas de quoi ils parlent. Ils donnent une réponse officielle à des informations qui leur sont communiquées. C'est comme une pyramide là, inversée, si on veut. Donc, ils obtiennent un résumé, mais au fond, c'est pas eux autres de se mêler de ça. Mais ici, que voulez-vous? Faut quand même. L'aspect politique est incontournable dans l'affaire Blanche-Garneau. Il faut la garder à l'œil parce qu'il y a encore des gens qui disent que c'est à cause du politique ou de la vie politique qu'elle a été assassinée. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, quand il y a des complots, souvent c'est de la faute de qui? Ben oui, des politiciens. C'est sûr, c'est facile de leur mettre ça sur le dos. Je les excuse pas, je les pardonne pas, je les aime pas plus qu'il faut. J'essaie d'être neutre, tout simplement. Je me sens pas concerné par leur travail. Des fois, je trouve qu'ils travaillent beaucoup. Hein? Ils ont pas de vie. C'est un job que je ferais pas, ça, c'est sûr. Mais bon, il faut quand même des preuves. Hein? Les autres aussi, là, si on veut les accuser, il faut des indices sérieux ou des preuves. Et dans ce cas-ci, les seules preuves qu'on a, c'est que Taschereau a demandé l'intervention à un moment donné par l'entremise de Charles Langteau de l'intervention de la police provinciale. Mais bon, c'est tout. C'est pas. Voilà. Hein? On va couper ça là. Le 20 janvier, encore une fois, l'événement a commis l'erreur d'écrire que, et j'ouvre les guillemets, comme dans l'affaire du vol de 60 000 $ du wagon poste à Montmagny. C'est l'indiscrétion d'un détenu de la prison de Québec qui a mis la police sur la trace des coupables. Et je ferme les guillemets. Il y a une affaire aussi que j'ai remarqué, c'est que, d'un certain sens, les affaires non résolues, quand ça traîne, on dirait que ça laisse pas l'impression, mais on dirait que ça donne le droit, ou en tout cas, ils le prennent, ce droit-là, ça donne le droit à la population et aux journalistes de réfléchir à haute voix. Ou avec leur plume, hein, si on veut, puis une plume révoltée, souvent. Et qui est cop quand on trouve pas les coupables? C'est souvent la police ou les politiciens. Alors voilà, c'est un phénomène que j'ai remarqué souvent. Et bon, on peut chialer longtemps, mais je veux dire, si on se mettait dans la peau d'un enquêteur, peut-être qu'on verrait les choses autrement. Et souvent, je veux dire, oui, ils ont un travail à faire. Il y a des fois qu'ils trouvent rien, absolument rien, c'est frustrant. Des fois, ils trouvent des choses suffisamment pour eux-mêmes se convaincre de qui a commis le crime, mais sans pouvoir en avoir suffisamment pour l'amener devant les tribunaux. C'est ça, il y a différentes étapes dans ça, là. C'est tout qu'un travail complexe. Mais évidemment, les gens qui connaissent rien commentent tout, hein? C'est notre habitude, je pense. On commente souvent sur des sujets qu'on ne connaît pas. Mais voilà, c'est ça. L'être humain est fait de même. Ça devrait pas, mais bon. Et ce qui est curieux, c'est qu'on associe aussi, vous vous souvenez du docteur Albert Marois, celui qui a fait l'autopsie, il aurait dit à un moment donné, probablement un journaliste là, qui a essayé de lui tirer les vers du nez, il aurait dit ceci, je vais révéler ses deux phrases. Il aurait dit « Ne cherchez pas le meurtrier parmi les hommes ordinaires. C'est le plus grand des criminels, c'est une brute qui a assassiné cette jeune fille. » Et je ferme les guillemets. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? « Ne le cherchez pas parmi les hommes ordinaires. » Probablement qu'il pensait que pour commettre un tel crime, parce qu'il faut l'avouer, malgré son expérience, ce type de crime-là, M. Dr Marois n'en avait jamais vu. La plupart des détectives aussi n'en avaient jamais vu. Les crimes à caractère sexuel de cette façon-là, il n'y en a pas eu beaucoup. Vraiment pas. Quelques-uns par le passé, mais de mémoire, je pourrais faire un résumé. J'en ai fait avec mon dictionnaire des homicides, mais il y en a que je pense. En tout cas, les quelques-uns, je pense à une prostituée autochtone. On ne l'a jamais retrouvé aussi, c'est resté non résolu au port de Québec. Et voilà, elle aurait été agressée sexuellement et on n'a jamais retrouvé. Elle a juste eu le temps de dire avant de mourir que c'était un soldat de tel régiment. Je me rappelle pas, là. J'ai déjà fait une capsule là-dessus, mais hein, vous savez que j'en traite tellement de dossiers qu'il y a certains détails qui m'échappent parfois. Mais c'était Charlotte Hamelin, je pense, c'est son nom. Alors, retournez voir la capsule sur Charlotte Hamelin. Vous allez voir que c'est ça. C'est un des rares cas et ce cas-là aussi n'a jamais été résolu. Alors, et ça faisait très longtemps, là on est en 1920, ça faisait très longtemps que Charlotte Hamelin, près d'un siècle, je pense qu'elle avait été assassinée. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'a pas vu beaucoup de cas comme ça. Donc, oui, il a pu se laisser influencer par le peu d'expérience qu'il avait envers ce type de crime-là, je le dis, parce qu'il avait quand même une bonne expérience sur les crimes en général. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ne cherchez pas parmi les hommes ordinaires. Est-ce qu'il voulait dire que c'était un fou? Est-ce qu'il fallait chercher du côté des institutions psychiatriques, des asiles? Ou, bon, est-ce que cet homme-là avait un comportement? Mais là, vous comprendrez que sur l'étude des tueurs en série ou l'étude comportementale des tueurs à caractère sexuel et tout ça, on était loin, très, très loin. Hein? Ça commençait à se structurer beaucoup plus vers les années 60-70 et ça se perfectionne toujours. Mais c'est ça, je pense que ce commentaire-là n'a pas une grande valeur, ça ne nous fait pas avancer non plus. Il est impossible aussi de connaître vraiment les sources du journal L'Événement à propos d'une histoire. On laissait entendre de façon erronée, d'ailleurs, que le meurtrier, qu'on refusait de nommer, mais qu'on était presque sur le bord de... On laissait entendre que c'était Duval, en tout cas. Donc, eux autres, ils laissaient... Leur suspect préféré semblait être Duval, mais on ignore pourquoi. Donc voilà, c'est ça. Est-ce que Duval va refaire surface à un moment donné? Est-ce qu'il va devenir un suspect sérieux? Voilà. Le 24 janvier, encore une fois, L'Événement annonçait que le meurtrier venait d'être arrêté en Ontario. Mais le bureau du procureur général déclarait de son côté ne pas être au courant. Et on a continué de multiplier les erreurs dans les journaux, par exemple en soulignant que les suspects était déjà enfermé à la prison de Québec depuis la veille au soir. Le journal prétendait aussi que cette erreur provenait d'un policier. Pourtant, il y a J.B. Carbonneau, le gouverneur de la prison de Québec, qui a dit au reporter qu'il ne savait absolument rien à propos de cette rumeur. Donc, voyez-vous, hein, je pense qu'on prenait une rumeur qui montait dans la rue et on écrivait un article avec ça, sans même aller vérifier à la prison de Québec. Puis quand même, c'était pas loin, là. Hein? Fallait pas prendre le train pour changer de ville. Avec les tramways, je pense, aurait été facile de vérifier ça avant d'écrire quelque chose. C'est finalement dans le numéro du 25 janvier de L'Événement qu'on a dévoilé publiquement les noms des suspects. Bon, enfin, ça sort. Donc, il finit par avoir un peu de vérité dans tout ce qui a été dit. Et on a donné les noms des deux suspects comme étant Bennett et McClure. Si vous vous souvenez des vrais noms qu'on a vus à l'épisode précédent, vous allez vous mettre à rire, mais bon, c'est ça. Bennett et McClure, alors que c'était Binette et Palmer. Donc, les erreurs se poursuivent, c'est épouvantable. On pouvait y lire aussi que l'arrestation remontait au vendredi 21 janvier, mais que la nouvelle avait été depuis gardée dans le grand secret. Ouh. Et encore une fois, l'Action catholique a commis les mêmes erreurs d'orthographe en parlant de Bennett et McClure. On ne l'écrivait pas tout à fait de la même façon, mais bon, vous aurez compris que c'était des fois, on recopiait les articles de d'autres concurrents. Hein. C'est là qu'on voit les erreurs. Les erreurs permettent de découvrir ça, des fois, qu'il y a certains journalistes qui ne faisaient pas leur devoir. En ajoutant au passage, cependant, l'Action catholique a quand même ajouté ça de son propre cru, que les deux suspects étaient inconnus des autorités judiciaires. Donc, voilà. C'est comme si ça allait s'entendre qu'il n'y avait aucun casier, aucun passé criminel. Mais on va voir que, encore une fois, c'est pas le cas. De son côté, visiblement en retard sur ses concurrents, la patrie a prétendu que les autorités refusaient de confirmer les arrestations en même date. Donc, hein, on a fini par s'ajuster, évidemment, là, mais... Ah là là. En fait, le public va finir par comprendre que, après quelques jours, les informations se replacent. Et finalement, on va comprendre que Binette a réellement été arrêté le 21 janvier à Sudbury, donc en Ontario. Et quant à son soi-disant complice, l'histoire devait se passer autrement, par exemple. L'arrestation ne s'est pas faite tout de suite. Et au matin du 25 janvier, à sa descente du train qui provenait de Montréal, le premier ministre Taschereau a été accosté par plusieurs journalistes qui, eux autres, faisaient le pied de grue à la gare de Québec. Et tout ce qu'ils se seraient contentés de déclarer, c'est ceci. « Nous n'avons aucune arrestation à annoncer. » Menteur. « Nous croyons qu'il ne faut pas faire de sensation avec cette affaire. Cela pourrait nuire aux fins de la justice. » Et je ferme les guillemets. Ah, voyez-vous, tout à coup, faut faire attention à ce qu'on dit parce que ça pourrait nuire à la justice. Ah, regardons. Ouais. Il y en a qui réajustent leur discours, hein. Ça arrive encore aujourd'hui. Surveillez les nouvelles. Vous allez attraper des choses croustillantes des fois. Le lendemain, c'est-à-dire le 26 janvier, il y avait 300 personnes qui se sont rendues à la gare de la vieille capitale dans l'espoir d'apercevoir les meurtriers. Mais peine perdue, il y a seulement des journalistes et des politiciens qui sont descendus des wagons. Donc, par où on avait amené les deux suspects? Mystère et boule de gomme. Et ce que je déplore, bien évidemment, je vais passer sur certains détails, là, parce qu'il y en a vraiment beaucoup des erreurs dans les journaux de cette époque-là, mais ce que je considère pas, par contre, comme une erreur, mais comme plus une erreur de jugement de la part des médias, c'est qu'on laissait entendre que le crime était résolu parce qu'on venait de procéder aux arrestations, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, on laissait croire, et ça peut jouer aussi sur les frustrations de la population, parce qu'eux autres, surtout à cette époque-là, j'imagine qu'en 100 ans, on a une meilleure compréhension de notre système judiciaire aujourd'hui qu'à cette époque-là. Donc, avec une compréhension moindre, si les journaux disent n'importe quoi, ben la population, c'est leur première source d'information. Ils n'ont pas le temps à cette époque-là d'aller assister au procès et tout ça. Donc, leur première source, c'est les journaux et ensuite le oui-dire qu'il y a sur les trottoirs et entre amis, sur les lieux de travail et tout ça. Donc, si on écrit déjà dans les journaux que « Ah, l'affaire est résolue », mais là, on vient de tromper le public à quelque part et on les traite déjà, les deux suspects, comme des assassins, des meurtriers. Là, on est sûr que c'est eux autres et tout ça. Ça se peut. C'est fort possible qu'on ait attrapé le bon, comme c'est souvent le cas. Je veux dire, je connais pas le pourcentage. Quand un procès commence, le pourcentage, je pense, est plus élevé d'avoir une condamnation que d'avoir un acquittement. Mais c'est ça. C'est donc, on a plus de chances quand on accuse quelqu'un qu'on a enfin attrapé la bonne personne. Mais bon, faut quand même pas généraliser. Faut faire très attention à ça. Faut très attention au terme. Un accusé est innocent jusqu'à preuve du contraire. Et là, les deux suspects n'étaient même pas encore accusés, voyez-vous. Alors, quoi qu'il en soit, Raoul Binette a effectivement fini par débarquer à Québec pour comparaître devant le juge Lachance le 31 janvier. Ce jour-là, il a été accusé formellement du meurtre de Blanche Garneau. Et la nouvelle a paru le même jour, en dernière page de l'Action catholique. Hein, pour une fois que c'est vrai, on met ça où? En dernière page. Ben oui, pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il y avait en première page? Ben oui, le décès du juge Lawrence John Cannon. Ben oui, c'est plus important. Effectivement, le juge Cannon était quand même très... un juge solide et célèbre pour cette époque-là. Il avait, entre autres, pour les amateurs d'histoire criminelle comme moi, il avait présidé le procès de Wallace McCree à Trois-Rivières en 1906. Et il y a une commission d'enquête aussi qu'il avait menée sur l'administration de la police de Montréal en 1909. Donc, juste pour faire une petite parenthèse sur le décès de ce monsieur, au moment de sa mort, il avait 69 ans et il est décédé chez lui à sa résidence du 55 rue Colin à Québec. Il laissait dans le deuil plusieurs enfants, dont son fils Lucien. Oui, vous aurez deviné. C'est Lucien Cannon qu'on a vu depuis le début de l'affaire Blanche Garneau et qui va participer au procès contre Binette et Palmer. Ce ne sera pas bien long, ça va ressortir ces affaires-là. Et au cours des semaines à venir, il s'acharnerait justement à faire condamner les présumés assassins de Blanche Garneau. Étant donné que, bon, enfin, il y a toute la confusion autour de l'enquête, de l'arrestation, ici et ça, que c'est éclairci, si on veut, donc les journaux se sont calmés, je pense, un petit peu. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est amusé à décrire Binette, donc physiquement. On l'a décrit comme un homme petit et délicat. Voyez-vous, ça, on cherchait justement tantôt, pas tantôt, mais dans un épisode précédent, à savoir sa description physique, parce que ce qui était étonnant, c'est qu'Henri Duval avait décrit deux suspects, et ça collait. Il avait parlé d'un Québécois, un Canadien français, et un anglophone, et d'un grand et d'un petit. Et pour lui, l'anglophone était le grand. Donc là, ça vient encore confirmer une fois en disant que Binette était petit et délicat et très nerveux. Donc, ça cadre encore un peu avec la description que fait Duval. Donc, malgré le fait que Duval a fait un paquet de conneries qui étaient plus ou moins sérieux, et des fois, il a lâché, autrement dit, il a révélé quelques détails étonnants qui collent encore. En tout cas, c'est surprenant, vraiment. C'est même après un siècle d'enquête, c'est encore surprenant aujourd'hui. Comment il l'a fait pour savoir ça? Ou est-ce qu'il l'a inventé puis c'est une coïncidence? Bizarre. Évidemment, il y a certains journaux qui, à une époque où on parlait beaucoup de tempérance, la fameuse prohibition, l'alcool, le gros méchant, c'était la même chose du côté des États-Unis d'ailleurs. Faites-vous-en pas. On parlait beaucoup des discours contre l'alcool parce que il y avait une certaine école de pensée. Je dis pas, quand on parle d'une école de pensée, ça veut pas dire que c'est tout le monde. Qui pensait que bon, tous les maux de la terre étaient attribuables à l'alcool, méchant alcool. Et Blanche Garneau en a pas fait exception. On disait même que ce meurtre-là avait été commis en raison de la présence d'alcool. D'autant plus qu'il y a un flacon d'alcool qui avait été trouvé sur les lieux. Et que ça, c'était la preuve, encore une fois, que le méchant alcool avait causé des dommages épouvantables à la société. Je vais même vous lire un extrait de ce style littéraire-là par rapport au méchant alcool. Vous allez voir, vous allez comprendre que j'exagère pas. Donc, j'ouvre les guillemets. la tragédie à laquelle ils, au pluriel, donc Binet et Palmer, ont été mêlés a été causée par l'alcool. Le flacon trouvé sur les lieux en est une preuve. Ces trois jeunes gens ont commencé par boire. La brute s'est ainsi éveillée en eux. C'est qu'ils sont allés attendre leur victime dans le sentier désert où l'un d'entre eux savait qu'elle devait passer et où ils l'ont assailli. En 2017, au moment d'écrire mon livre sur l'affaire Blanche-Garneau, je terminais ce chapitre par une question. Et c'était celle-ci. Est-ce que la population de l'époque se rendait compte à quel point il y avait un dérapage médiatique? Évidemment, c'est très difficile de répondre à cette question-là parce que c'est facile de retracer ce que les journaux ont dit, parce que les journaux, en grande majorité ou en presque totalité, depuis la Nouvelle-France, ont survécu, au moins un exemplaire de chacun. Il en manque, là, mais je pourrais pas vous dire. Il faudrait s'adresser à BANQ à ce moment-là pour. Mais bon, bref. Là, on est en 1920. Il en manque pas beaucoup. Ça a été numérisé et tout ça. Donc, c'est assez facile de retracer ce que les journaux ont dit. Il y en a même qui s'amusent où vous pouvez le faire, prendre un sujet en particulier puis voir les comparaisons. Évidemment, ça prend un sujet quand même assez célèbre pour avoir attiré l'attention de plusieurs journaux à la fois, comme c'est le cas ici. Donc, ça peut être un exercice amusant, vous allez voir. Bon, c'est ce qu'on a fait un peu avec ce chapitre-ci. Pour le même sujet, le nombre de conneries qui se sont dites, c'est assez impressionnant. Mais pour la population, aucune trace. Je veux dire, on ne sait pas leur opinion après. T'sais, on ne sait pas si M. Untel a dit à un moment donné dans une brasserie, « Ah, oh, moi, ces conneries-là dans les journaux, j'y crois pas, j'attends de voir le procès. » Je veux rester objectif. C'est sûr que ça m'étonne que ça aurait été le discours de la majorité, évidemment. Hein? Je ne suis pas naïf à ce point-là. Mais je pense qu'il y a toujours eu des personnes à toutes les époques, comme il y a eu des athées à toutes les époques, malgré le fait que certaines époques dans l'histoire étaient très, très, très fortement religieuses. Donc, je crois qu'il y a toujours eu une certaine partie de la population qui était rationnelle. Mais bon, c'est malheureusement pas le cas de la plupart. Pourquoi? Ben, je pense, avec les années, pour avoir étudié plein de procès, les causes et tout ça, c'est que la population, je la comprends, mais c'est pas parce que je la comprends que je l'approuve, se laisse embarquer par les sentiments souvent. Et on ne devrait pas parce que les procès ne se jugent pas selon les sentiments. Il faut les mettre de côté. Ça peut paraître froid, ça peut paraître débile, ça peut paraître épouvantable, j'en conviens. Mais si on ne laisse pas ces sentiments de côté, c'est là que l'injustice risque d'arriver. Et en commettant cette injustice-là, ben c'est comme si la population est responsable d'une injustice qu'elle-même accusait le système judiciaire. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais on accuse le système judiciaire d'être injuste, mais avec le comportement de la population, si on laisse embarquer ses sentiments, ben c'est justement cette injustice-là qu'on va atteindre, parce qu'on ne sera pas objectif, on va accepter en preuve à peu près n'importe quoi. Alors, c'est là qu'est le danger, je pense. Faut faire très, très, très attention. Et encore une fois, il y a des causes aujourd'hui. Là, j'en nommerai pas aujourd'hui, là. Je pense que vous allez deviner laquelle j'ai en tête encore, mais c'est. Faut faire très attention. Parce qu'on le sait pas. C'est pas nous, les enquêteurs, c'est pas nous. Oui, si vous rencontrez un enquêteur, ça m'est déjà arrivé, là. Inquiétez-vous pas, là. J'ai 33 ans d'expérience. Un enquêteur qui vous dit « Moi, je suis convaincu que c'est ça qui s'est passé. » Fait que là, parce que c'est un ancien enquêteur, tu dis « Wow, t'es un peu, ça a du poids, son affaire. » OK, j'en conviens. C'est un enquêteur, ça peut être un enquêteur sérieux, mais il peut avoir des comptes à régler, cet enquêteur-là, après coup. Alors, il faut faire très attention. Et il y a des enquêteurs aussi qui se font remettre à l'ordre par les juges quand ça vient le temps de déposer des preuves et tout ça. Donc, le système du procès est tellement important pour remettre tout ça à l'ordre. J'en conviens que la plupart des enquêteurs doivent être excellents, très bons, sont de mieux en mieux formés. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Mais il faut quand même respecter toutes les étapes. C'est pas pour rien qu'il y a plusieurs étapes dans un système judiciaire. C'est pour justement solidifier la preuve, la tester, la retester, et l'étudier à fond, de gauche à droite, en dessous, dessus, par-dessus, par en arrière, par en avant. Là, ça ressemble à un film 3X, mais bon, c'est pas grave, c'est le même principe. Mais voilà, c'est ça qui fait la force, plus d'un verdict. Et malgré tout ça, oui, vous allez me dire, des fois, on se trompe quand même. Fait que voyez-vous, si on faisait ça avec nos sentiments à l'aveuglette, comme c'était le cas à l'époque de l'Inquisition, oui, elle, c'est une sorcière, brûlez-la, oui, juste parce qu'elle était bizarre, ben voilà, c'était peut-être une personne qui souffrait d'un certain retard mental, et puis là, on la brûlait sur le bûcher, paf, c'était sûrement une très belle époque. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Tout ça pour retenir, malgré l'étude des erreurs des journaux, tout ça, retenons le principal, c'est-à-dire que Binette a été arrêté. Palmer ne s'est retardé. Donc, ça veut dire que Binette existait vraiment. Et on ne sait pas, par exemple, on ne saura jamais le cheminement qui a mené à son arrestation. Mais on va voir que j'ai découvert certaines choses à son sujet plus tard. Alors voilà, c'est ça. Là, on est arrêté avec Binette. Alors, au prochain épisode, ce qu'on va pouvoir étudier de façon plus minutieuse, ce sont ses aveux. Parce que oui, il va avouer. Alors, ça va être intéressant, un peu comme Duval. Est-ce que ça va être aussi crédible, plus crédible, moins crédible que Duval? Haha, je vous laisse le punch au prochain épisode. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.